Bonjour et merci de me rejoindre aujourd'hui pour la partie vocabulaire du module 96. Il s'agissait du module sur le thème « Savoir bien communiquer ». Alors j'espère que ça vous a aidé à comprendre et à savoir comment bien communiquer en français. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le vocabulaire de ce module, donc les mots que vous avez entendus et que Johan n'a pas expliqués. Des mots que vous n'avez peut-être pas compris, ou alors que vous avez compris, mais qu'il est intéressant de voir dans des contextes différents. Alors c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. J'ai sélectionné une liste de mots dont je vais expliquer le sens, et sans plus attendre, on va commencer avec le premier mot. Dans la phrase « pour convaincre ses collègues ». Donc le mot « convaincre », ça signifie « persuader ». Ça signifie amener quelqu'un à croire quelque chose. Ça peut être divers et varié. Par exemple, je peux vous dire « je vous ai convaincu d'écouter le module en plusieurs fois » ou bien un autre exemple « je suis convaincu que j'ai pris la bonne décision » ou encore « j'ai convaincu mon ami de reconnaître ses erreurs ». Donc vous voyez que le verbe « convaincre » ici signifie « amener ou persuader quelqu'un à croire quelque chose ». Le prochain mot est le mot « en permanence », donc ça veut dire « toujours », quelque chose qui se passe tout le temps. Lorsqu'on utilise ce mot, on fait de l'action une vérité générale. Par exemple, « il est au travail en permanence », ça veut dire qu'il est toujours au travail, qu'il y passe énormément de temps. On peut utiliser ce mot « en permanence » également pour exagérer, pour accentuer un fait. Par exemple, elle est en permanence en train de s'occuper de ses enfants. Donc pour montrer que c'est très souvent qu'elle est en train de s'occuper des enfants, eh bien on ajoute le mot « en permanence ». Ça vient vraiment accentuer le propos. Le prochain terme est une compétence clé. Dans la phrase « une compétence clé que tu dois développer aussi bien pour l'oral que pour l'écrit. » Eh bien, une compétence clé, c'est une compétence nécessaire, indispensable. L'image de la clé ici fait référence au fait que, devant une porte fermée, eh bien, il nous faut une clé pour entrer. Donc ici, l'image, c'est que pour atteindre l'objectif de savoir bien communiquer, eh bien, la compétence qui va nous permettre d'atteindre cela, la compétence indispensable, la compétence clé, eh bien, c'est la communication. Passons maintenant au mot suivant, le mot impératif. Ça veut dire indispensable, nécessaire, obligé. C'est indispensable ici, c'est nécessaire de faire en sorte que le message transmis soit compris. Lorsqu'on parle d'un impératif, on parle d'une chose obligatoire. Ensuite, voyons ce qu'est un message opposé. Eh bien, c'est un message contraire. Ce n'est pas le message que l'on souhaite passer. C'est un message qui est aux antipodes, disons, de ce que l'on pense et du message que l'on voulait transmettre à la personne. Donc ici, Johan explique qu'à cause d'une mauvaise communication, eh bien, on peut passer un message complètement opposé, complètement contraire en fait, voire complètement différent de ce que l'on pense, de ce que l'on voulait faire passer comme message. Le prochain mot est le mot maladroite, dans la phrase « d'une façon très maladroite ». Alors, on peut utiliser ce terme au sens propre ou au sens figuré. Donc, au sens propre, au sens premier du mot en fait, l'origine de ce mot, quelqu'un de maladroit, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément doué, qui n'est pas, disons, habile, qui n'est pas coordonné, par exemple, au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds, quelqu'un qui tombe facilement ou qui renverse quelque chose facilement, on va dire qu'il est maladroit ou maladroite. Si une personne, chaque fois qu'elle porte un plateau, elle le renverse, eh bien, les gens vont qualifier cette personne de maladroite. Bien sûr, ce n'est pas très gentil de dire ça. Et au sens figuré, eh bien, une façon très maladroite, c'est une mauvaise façon. Disons, c'est une façon qui n'est pas réussie. Voyons maintenant les tournures de phrases. Qu'est-ce que les tournures de phrases? Eh bien, c'est la façon dont sont disposés les mots à l'intérieur de la phrase. Selon la disposition des mots, parfois ça peut changer l'intonation de la phrase, voire même le sens de la phrase. Le mot suivant, ou plutôt le verbe, est se focaliser. Donc se focaliser, ça signifie rester focus, donc rester concentré sur quelque chose. Par exemple, là, tout de suite maintenant, je me focalise sur ce que je suis en train de dire, pour pouvoir vous expliquer distinctement et que vous compreniez mes propos. Voyons maintenant le mot « la prétention ». Dans la phrase, on n'a pas du tout la prétention d'avoir ces qualifications-là. Eh bien ici, cela signifie que Johan ne se met pas sur un piédestal. Ici, il vous communique des conseils, des informations très importantes sur des sujets très intéressants. Mais il n'est pas prétentieux. Il ne se sent pas supérieur. Il n'essaye pas de se mettre en valeur. Donc quelqu'un qui a de la prétention, on va dire qu'il est prétentieux. Et à contrario, quelqu'un de modeste, qui n'est pas prétentieux, on va dire que c'est une personne humble. Le mot suivant est le mot primordial. Dans la phrase, la première chose primordiale à avoir en tête. Donc primordial, c'est quelque chose qui est important. C'est la première chose importante, disons. C'est la première chose indispensable. Donc parmi les synonymes de primordial, on peut dire que c'est important, que c'est fondamental, que c'est essentiel. Le mot suivant est le mot permanence. Dans la phrase, on communique en permanence. Eh bien, ça veut dire qu'on communique toujours, on communique tout le temps. Le mot permanence vient accentuer en fait cette notion de régularité, cette notion de constance. Donc par exemple, je peux dire « il est en permanence en retard à l'école ». Ça veut dire qu'il est toujours en retard. Passons au mot posture. Dans la phrase, via notre posture, via nos sentiments. Alors, notre posture ici, c'est la façon de se tenir physiquement. La façon dont on s'assoit, la manière dont on pose ses mains ou ses bras, par exemple, sur la table, la façon dont on croise ou non les jambes, etc. C'est bien ici de la communication non-verbal. C'est du langage non-verbal. Et qu'est-ce que veut dire le langage non-verbal ? Eh bien, ça veut dire que sans parler, sans dire quelque chose de notre bouche, notre corps, notre façon de nous tenir, notre posture parle d'elle-même. Cette posture que l'on a, elle parle pour nous en fait. Et elle communique des choses à la personne d'en face qui nous écoute. Donc si lors d'un entretien professionnel, je me tiens la tête, je me tiens de travers, je m'étends sur la table, eh bien le recruteur en face aura une mauvaise image de moi. Il aura ce qu'on dit un a priori, sans même que je n'ai parlé, sans même que je ne me sois exprimée. Mon corps, ma façon de me tenir, ça va lui faire penser des choses sur moi. Ça c'est un phénomène vraiment naturel. C'est pas que la personne en face de nous nous juge, mais tout simplement, elle va ressentir des choses de par notre posture. Passons justement au mot suivant, le mot avachi. Dans la phrase « toi, tu es complètement avachi », eh bien ici, ça signifie que c'est une personne endormie, une personne, disons, qui est molle, qui est étalée, voilà, dans son siège, sur sa table. C'est une personne qui ne sait pas se tenir, en fait. C'est une personne qui ne se tient pas droit, c'est une personne qui est mal assise, qui est mal installée. Et donc lorsqu'on voit une personne se tenir de la sorte, notamment lorsque l'on est un recruteur ou si l'on ne se connaît pas, eh bien on va avoir un a priori négatif vis-à-vis de sa communication. Et un a priori, eh bien c'est une pensée qui peut être positive ou qui peut être négative et qui survient avant qu'on ne connaisse la personne. Lorsqu'on rencontre des gens, il s'avère que parfois on a des a priori alors que l'on n'a toujours pas communiqué ensemble. Par exemple, on peut voir une personne et se dire « je suis certaine que cette personne-là est sévère » ou « qu'elle est méchante » ou bien même « qu'elle est gentille ». Donc si je dis ça d'une femme, par exemple, avec qui je n'ai jamais échangé, jamais discuté, que je viens seulement de rencontrer, et de voir, eh bien, c'est un a priori que j'ai à son propos. De par sa posture, de par ses gestes, de par les traits de son visage, etc. Le mot suivant est le mot intonation. Donc l'intonation de notre voix. Eh bien, c'est la façon dont on parle. C'est le ton de notre voix. Donc si je parle à mon bébé tout doucement, alors mon intention est douce. Mais si je vais à un match de foot, que je soutiens les joueurs, alors je vais crier fort et l'intonation sera forte. Vous voyez la différence entre les intonations ? On peut faire prendre à notre voix des intonations différentes, en fonction de la situation, en fonction du contexte, en fonction également de notre interlocuteur. Passons au mot « impact ». Dans la phrase « un impact énorme ». Eh bien, c'est-à-dire que ça va avoir une influence. On peut dire que ça a des répercussions, des conséquences. On peut dire que ça a une incidence. Le mot suivant est le mot « empathie ». Dans la phrase « si tu regardes une personne avec empathie », eh bien, ça veut dire se mettre à la place de la personne, comprendre ce que la personne ressent d'un point de vue émotionnel et dans quelle posture elle se trouve. Donc le fait de regarder quelqu'un avec empathie, avec un sourire par exemple, eh bien ça veut dire ici avec bienveillance, avec gentillesse. Passons au prochain mot, le mot cadence. Dans la phrase, la cadence et le volume. Donc la cadence, c'est le rythme. Une cadence rapide ou lente, par exemple. Lorsque je vous parle, j'essaye d'adapter la cadence. C'est vrai que parfois je parle un peu vite, j'essaye de me reprendre et d'adapter la cadence de mes propos. J'essaye de parler doucement pour que vous compreniez distinctement ce que je dis sans aller trop vite. Donc ici, on voit bien que je m'adapte, que j'adapte ma cadence à mes interlocuteurs. Passons au mot cohérence. Dans la phrase, c'est la cohérence des mouvements. Eh bien, la cohérence, ça veut dire la logique. Il faut bien évidemment que vos paroles soient en concordance, soient cohérentes avec vos mouvements, avec le langage de votre corps. Le mot suivant est le mot psychopathe. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu cette phrase, parce que j'ai imaginé toutes les personnes qui m'ont déjà regardée d'une manière insistante, d'une manière déplacée, et c'est vrai que lorsqu'ils faisaient ça, je me disais, mais on dirait vraiment des psychopathes. Donc vous savez, ces gens qui vous fixent, ou pire, qui vous suivent, ils vous regardent vraiment avec insistance. Et dans ces cas-là, on n'est pas très rassuré, on n'est pas très à l'aise avec ce genre de personnes, et on dit que ça fait psychopathe, en référence en fait aux gens qui ont des problèmes psychologiques et qui font parfois des choses, eh bien, étranges. Passons maintenant au mot posture. Dans la phrase, ce que tu ressens en fonction de leur posture. Eh bien, la posture, c'est une attitude. C'est une façon de se tenir. Là encore, la posture est très importante et elle a un impact sur ce que l'on ressent. Passons maintenant à la suite avec le mot bonne disposition. Dans la phrase, on n'était pas forcément dans de bonnes dispositions. Ça peut être physique ou moral. Disons que je suis très fatiguée et que je dois passer un examen. Je vais pouvoir dire que je suis dans de mauvaises dispositions pour passer mon examen, car je suis très fatiguée. Un autre exemple, elle a bien dormi, elle s'est bien reposée, elle est dans de bonnes dispositions pour passer son examen. Le mot compact. Dans la phrase, ce module sera dense, sera compact. Eh bien, ça signifie qu'il y aura beaucoup d'informations d'un coup à la suite. Le mot suivant est le mot conflit. Donc, dans la phrase « régler un conflit avec un collègue », eh bien, un conflit, c'est un différend. Disons que c'est un problème, une petite dispute. On peut même dire un point de désaccord, par exemple. Voyons le mot conflit. Dans la phrase « régler un conflit avec un collègue », eh bien, un conflit, on peut dire que c'est un différend, que c'est un problème, que c'est une petite dispute. Disons que c'est un point de désaccord, par exemple. Bref, quelque chose qui vous oppose. Le mot suivant est le mot compromis. Donc, dans la phrase, le meilleur compromis entre nous deux. Eh bien, un compromis, c'est un arrangement entre deux ou plusieurs personnes, et où chacun doit faire des concessions. Ça veut dire en fait qu'on doit trouver un terrain d'entente. Et pour cela, eh bien forcément, il y a des choses sur lesquelles il faudra passer, qu'on ne pourra pas faire prévaloir. Donc, il faudra faire des concessions. Voyons maintenant ce que signifient les mauvaises dispositions. Eh bien, ça signifie les mauvaises postures, les mauvaises situations. Dans la phrase, ça veut dire qu'on va se mettre dans les mauvaises dispositions. Tout simplement, ça veut dire qu'on va se mettre dans des situations pas très agréables. Voyons ce que signifie « on va être frustré ». On va en fait ressentir un sentiment de frustration. Ça signifie qu'on va se sentir en fait insatisfait, voire même déçu. Ensuite, le problème initial, eh bien, initial, ça signifie que c'est le problème au départ, au début, au commencement. Le prochain mot est le mot interlocuteur. Dans la phrase, ton interlocuteur, il est perdu. Eh bien, c'est la personne avec qui tu parles, avec qui tu communiques. Lorsque tu parles avec quelqu'un au téléphone, c'est ton interlocuteur. Lorsque tu parles avec quelqu'un au magasin, eh bien, c'est ton interlocuteur. À partir du moment où il y a une conversation entre toi et une autre personne, eh bien la personne en face de toi s'appelle ton interlocuteur. Voyons maintenant ce que signifie prendre un autre angle. Eh bien un autre angle, ça signifie une autre vision, une autre manière de voir les gens. Je peux te donner des explications sur un sujet que tu ne vas peut-être pas comprendre, mais si j'explique sous un autre angle, d'une autre manière, en reformulant avec d'autres mots, alors peut-être que tu comprendras mieux. Passons maintenant à l'expression « voir le monde avec ses lunettes ». Eh bien ici, « voir le monde avec ses lunettes », c'est une expression, ça veut dire qu'on voit le monde selon sa propre vision à soi, avec ses propres lunettes, sans penser que les autres peuvent voir le monde différemment. Le verbe « supposer ». Dans la phrase « il faut pas supposer », qu'elle a tel ou tel goût. Le verbe supposer, ça veut dire faire une hypothèse, croire que, sans forcément avec de fondement, sans forcément de preuve. Le mot suivant est le mot supposition. Donc supposition, c'est de la même famille que le verbe supposer. Quand je suppose quelque chose, par exemple je suppose que tu as écouté le module et le fichier prononciation, eh bien là, ce que je suppose, c'est une supposition. Ma supposition, c'est que tu as écouté le module et le fichier vocabulaire. Mais voilà, je suppose, je fais une supposition car je ne suis sûre de rien. Voyons maintenant le mot astuce. Eh bien, disons que c'est un conseil, que c'est une manière habile d'agir avec intelligence, avec ruse. Par exemple, je peux te donner quelques astuces pour apprendre du vocabulaire en français. Ou bien, si tu veux, je te transmettrai mes astuces pour être productif, etc. Voyons maintenant le mot grossier. Dans la phrase, c'est un exemple un peu grossier pour montrer que c'est évident. Le mot grossier a plusieurs significations dans des contextes différents. Ici, grossier, ça signifie un manque de raffinement. Un manque de délicatesse. Passons au mot jargon. Donc le jargon, c'est une façon de s'exprimer, qui n'est pas comprise par la majorité des gens. Par exemple, le jargon du football, eh bien tous les mots qui sont employés par les gens qui aiment ou qui pratiquent le football, eh bien ce sont des mots qui sont spécifiques au foot et que tout le monde ne va pas comprendre. Comme par exemple le jargon des geeks. Voyons maintenant ce que signifie parler la même langue, au sens figuré. Donc s'assurer de parler la même langue, ici c'est une expression, car on parle la même langue bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut s'assurer que l'on a bien été compris par la personne, par notre interlocuteur. Le mot répandu, dans la phrase, c'est quelque chose qui est très répandu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est commun à de nombreuses personnes. Ce n'est pas rare, bien au contraire, c'est très répandu auprès des gens. Le mot convenablement, si on n'écoute pas convenablement, si on n'écoute pas bien, si on n'écoute pas correctement. Le mot catastrophe, ensuite, ça veut dire que c'est malheureux, que c'est effroyable, que c'est vraiment désolant. Passons au mot monologue. Eh bien, un monologue, c'est lorsque l'on parle tout seul. Ici, par exemple, je fais un monologue. On ne peut pas interagir, vous et moi. Eh bien, dans une conversation, lorsque la personne est en face de vous, faites attention de ne pas justement faire un monologue, de ne pas trop monopoliser la parole, de ne pas trop parler tout seul et ne pas laisser la place à la personne d'en face de s'exprimer. Il faut que votre conversation soit un dialogue. Eh bien, le dialogue, il faut au moins deux personnes, d'accord ? Ou plus, qui puissent échanger, qui puissent mener une discussion. Tandis que le monologue, eh bien, la personne est toute seule. Et elle s'exprime toute seule et elle discute toute seule. Une conversation qui est constructive, ça veut dire que c'est une conversation qui est riche, où il y a des échanges intéressants, où chacun émet son avis, mais est aussi capable d'écouter et respecter l'avis de l'autre. Voyons ce qu'est instaurer un climat de confiance. Eh bien, instaurer un climat de confiance, ça veut dire que l'ambiance générale est détendue, que la personne est en confiance, que la confiance est au beau fixe, que chacun est à l'aise pour s'exprimer, pour discuter, pour parler, et surtout sans se sentir jugé. Voilà ce que signifie un climat de confiance. Passons maintenant à l'écoute active. Donc non seulement elle est utile pour être efficace dans la communication, mais en plus elle montre à l'autre personne que tu la respectes. L'écoute active, c'est lorsque vous regardez la personne attentivement lorsqu'elle vous parle. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, vous n'êtes pas distrait par quelque chose, vous n'avez pas votre téléphone entre les mains par exemple. Vous écoutez la personne attentivement et surtout vous lui montrez que ce qu'elle dit est intéressant, que vous y prêtez attention. Voilà, c'est ça l'écoute active, c'est le fait d'écouter la personne de façon active, de façon intéressée. Que signifie le fait de répondre tac au tac ? Eh bien, ça veut dire le fait de répondre tout de suite, de répondre immédiatement. Je vous réponds au tac au tac, ça veut dire que je vous réponds sans attendre. Ensuite, on passe au mot interpréter. Donc, on doit aussi interpréter tout ce qu'elle a dit. Eh bien, ça veut dire trouver un sens. Ça veut dire tirer une signification de ce qu'elle dit. Ça veut dire imaginer plutôt ce que la personne a essayé de nous dire. Le mot suivant est le mot primordial. Primordial, ça veut dire que c'est important. On pourrait dire que c'est capital, que c'est indispensable. Que veut dire maintenant ruiner littéralement la communication ? Eh bien ici, ruiner, ça veut dire endommager, ça veut dire abîmer. Ici, ça a plutôt le sens de porter atteinte à la communication. Voyons maintenant ce que signifie le verbe dompter. Dans la phrase, en prendre conscience et les dompter un petit peu pour mieux se respecter soi-même et mieux respecter les autres. Ici, on parle des émotions, d'accord ? Donc dans son sens premier, le verbe dompter, ça signifie réduire à l'obéissance. Dans le domaine du cirque, par exemple, les animaux sauvages sont domptés et obéissent à l'homme. Ici, nous parlons des émotions. Le fait de dompter les émotions, au sens figuré, ça veut dire de les maîtriser, de ne pas les laisser prendre le dessus et de les dominer. Passons au terme intelligence émotionnelle. Eh bien, c'est la capacité, en fait, pour un individu à comprendre, à maîtriser et à exprimer une émotion qui lui est propre et également à distinguer et à décoder une émotion chez l'autre. Pour cela, il faut une vraie intelligence émotionnelle. Il faut vraiment être empathique, il faut vraiment faire l'effort de comprendre les gens qui sont en face de nous. Voyons maintenant le verbe anticiper. Dans la phrase « tu anticipes mieux les situations ». Eh bien, le verbe « anticiper » ici signifie « prendre de l'avance », prévoir d'avance les situations pour mieux les appréhender. Donc, lorsqu'on anticipe, eh bien, ça évite d'être pris à dépourvu. Le verbe suivant est le verbe « influer ». Dans la phrase « en quoi être positif peut influer sur la communication ». Eh bien, influer, ça veut dire avoir une influence. Ça veut dire avoir une conséquence, un impact, un effet sur la communication. Comme le ton que l'on emploie. Qu'est-ce que le ton ? Eh bien, le ton, ça indique la manière dont l'énonciateur transmet son message. Donc, c'est très révélateur de son point de vue, de son opinion. Un ton doux, ça montre que la personne est douce, qu'elle parle calmement. D'accord ? Un ton agressif, eh bien, ça en dit long. C'est révélateur du point de vue de la personne. Si la personne, elle emploie un ton agressif lors d'une conversation, eh bien, ça va vous montrer, ça va vous prouver ce qu'elle pense. Voyons maintenant les tournures de phrases. Eh bien, les tournures de phrases, c'est la façon dont les phrases sont construites, dont les phrases sont exprimées. Donc, selon les tournures, par exemple, on peut dire qu'il s'agit du langage familier ou du langage soutenu. Voyons maintenant ce qu'est l'esprit Kaizen. Donc, je n'y connais pas grand-chose, mais après mes petites recherches, j'ai trouvé que le mot Kaizen est un mot japonais, composé de Kai, qui signifie changement, et Zen, qui signifie bon ou pour mieux. Donc, on le traduit généralement en français par amélioration continue. Nous arrivons bientôt à la fin de ces explications. Et le dernier mot de ce fichier est le mot spontané. Dans la phrase, il faut être spontané. Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas trop penser, qu'il ne faut pas trop réfléchir. Bon, un petit peu quand même. Mais il ne faut pas toujours vouloir anticiper. Il faut tout de même faire confiance à notre instinct, d'accord ? Et à essayer d'être au maximum naturel. Et voilà, nous en avons terminé aujourd'hui avec le vocabulaire. Donc comme d'habitude, j'espère que les exemples vous auront apporté un peu de clarté. Donc si vous avez appris quelque chose, eh bien c'est très bien. Et si vous connaissiez déjà tous les mots, eh bien c'est très bien aussi. Si les explications vous ont paru compliquées, alors prenez votre temps. Essayez de réécouter le fichier plus tard, voire même en plusieurs fois. Essayez aussi de réécouter le module avec la retranscription, ça peut vraiment vous aider. Et sachez que la répétition, la régularité, eh bien c'est la clé. Il vaut mieux que vous fassiez un petit peu chaque jour plutôt que de faire beaucoup en une seule fois et de laisser plusieurs semaines sans étudier la langue. Vous savez très bien que la langue française, eh bien c'est une langue vivante, alors étudiez-la, oui, mais mettez-la en pratique. N'hésitez surtout pas à nous contacter en dessous du module, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis merci pour votre présence, je vous souhaite beaucoup de courage dans la suite de vos apprentissages et je vous dis à très bientôt.